en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, aujourd'hui En habit vert s'intéresse à une personnalité hors norme, mondialement connue, qui siégea pendant 8 ans à l'Académie française. Alors quelques indices, il portait un bonnet rouge, on l'appelait commandant. En 1950, il récupère un ancien dragueur de mine qu'on appelle la Calypso et qu'il dote d'instruments de plongée et de recherche scientifique. Avec son équipe, il parcourra les mers et les grands fleuves du monde pendant 40 ans. Et en améliorant le scaphandre autonome, en fabriquant des étuis étanches pour les caméras, il fera découvrir les océans à des millions de personnes. Alors vous avez trouvé, il s'agit du commandant Jacques-Yves Cousteau. Et En habit vert s'intéresse aujourd'hui à son parcours. Et pour en parler avec nous, dans notre studio, Bertrand Poirot-Delpech. Bertrand Poirot-Delpech, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je précise quand même que vous êtes membre de l'Académie française. Vous êtes à l'Académie française depuis 1986. Vous étiez journaliste. Peut-être que vous avez encore votre carte.
Il y a déjà 20 ans de ça.
Vous avez travaillé très longtemps au journal Le Monde.
Oui, près de 40 ans.
40 ans oui. Au Monde. Et bien sûr, vous êtes également essayiste et romancier. Et c'est vous qui, le 22 juin 1989, avez prononcé le discours d'entrée du commandant Cousteau sous la coupole. Alors, ma première question, Bertrand Poirot-Delpech, c'est comment vous avez fait connaissance avant l'élection de Jacques-Yves Cousteau à l'Académie française? Comment vous l'avez connu?
J'avais une spécialité, disons, de par choix, c'était les questions maritimes, les questions de marine, au sens très large. J'ai moi-même un voilier, je pratique beaucoup la voile, et donc je connaissais Cousteau bien avant qu'il soit question de lui pour l'Académie, et j'ai milité, ce que je n'ai pas fait beaucoup de fois depuis 20 ans, mais j'ai milité beaucoup pour sa venue à l'Académie, parce qu'il fait partie des gens qui apportent de la gloire à l'Académie et non pas l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à être connus parce qu'ils entrent à l'Académie. Et lui, au contraire, a apporté sa célébrité personnelle, et qui est mondiale, en a fait profiter l'Institut. Alors, c'est si vrai que j'ai souvenir que, quand j'ai rejoint la Calypso, parce que pour préparer le discours, plutôt que de lire ses ouvrages ou de regarder ses films, que j'avais bien sûr suivi...
Vous avez préféré l'accompagner.
Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand on arrivait dans un petit golfe du Siam, golfe de Siam ou à Bangkok,
en Thaïlande,
je l'ai rejoint, les gosses dans la rue ou sur les plages, quand on venait tourner autour de la Calypso, venait tourner autour du commandant, ils disaient Cousteau. Et il était énormément connu, enfin plus que n'importe quel académicien que j'aurais pu citer. C'était vraiment une star.
Comment il s'est comporté avec vous quand vous êtes arrivé sur la Calypso? Vous avez eu un accueil assez froid ou
très cordial, très chaleureux. Il m'a même affublé d'un scaphandre pour me montrer comment ça se passait.
Vous avez plongé avec eux?
J'ai plongé avec eux. Je me souviens d'une espèce de grappe de bulles qui sortait de partout et je n'étais pas très à l'aise, alors que lui, évidemment, était plus à l'aise qu'à l'air libre.
En même temps, il avait quand même plusieurs années de pratique.
Oui, et les médecins lui recommandaient de ne pas plonger parce que il y a des différences de pression, il y a le choc du scaphandre et de la pression sous-marine, et qu'il avait un fond d'asthme et même d'emphysème. Et que
un souffle au cœur.
Il avait beaucoup de mal à respirer à l'état normal. Si bien que peut-être les psychanalystes, les freudiens vous diraient que c'est appuyé sur sa difficulté. À la limite, aurait pu l'empêcher même d'être marin, parce qu'il y a une visite médicale très serrée. Et donc, il n'était pas fait du tout pour ça. Mais en même temps, il avait ce tempérament d'aventure, de recherche. C'est même étonnant de penser que dans l'histoire des découvertes, on a attendu 18 siècles, plutôt plus, alors que tout le monde était fasciné par ça. Et c'est pour ça qu'on avait peuplé les fonds marins de monstres, jusqu'à Victor Hugo, n'en parlons pas, mais... Enfin, Le au-dessous de 10 mètres de fond, c'était la grande menace avec des monstres gigantesques.
Notre imaginaire peuplait comme ça ce monde que nous ne connaissions pas.
On pensait que le fond marin était peuplé de serpents immenses avec des anneaux et que tous les bateaux qui faisaient naufrage étaient forcément écrabouillés par les monstres qui peuplaient les fonds marins.
Et Jacques-Yves Cousteau est arrivé.
Et puis, lui est arrivé, le scaphandre existait, mais beaucoup trop lourd, et on n'avait pas du tout d'agilité, de manœuvre. C'est donc lui qui a inventé, par le détendeur, c'est-à-dire qu'au lieu de traîner une cuirasse en cuivre avec une pression, et il y avait même à l'origine du scaphandre, on pompait l'air avec quelqu'un
qui... La surface qui tournait une manivelle
pour envoyer de l'air. La grande nouveauté qui a permis la découverte de Cousteau, c'est évidemment l'air comprimé. Et il était justement en liaison avec une maison d'air comprimé qui a fait fortune grâce à ses découvertes. Le scaphandre pesait des dizaines de kilos et était complètement à peu près comme les astronautes et les cosmonautes, handicapés par son matériel. Alors que là, le scaphandre Cousteau pèse quelques kilos. Alors voilà, il m'a en effet entraîné dans cette aventure.
Pendant une semaine, donc vous étiez sur la Calypso avec le reste de son équipe.
Dans le golfe de Siam. Et alors là, il y a deux histoires qui me sont restées. C'est la première, c'est vous disiez à l'instant qu'il était très connu. C'est plus que ça. J'ai jamais vu un accueil pareil. Il y avait des centaines d'enfants qui couraient sur la plage où on avait débarqué de la Calypso et qui disaient « Cousteau, Cousteau, Cousteau ». Ils voulaient lui toucher la main. C'était pour eux une star.
Une icône.
Une icône, oui. Eux plongeaient avec des tuyaux. Ils appelaient ça les macaronis. Sans aucune réserve, c'était simplement des tuyaux avec un flotteur. Comme ça, ils respiraient et ils prenaient des risques parce qu'ils ne marquaient pas de temps d'arrêt. C'est là que ce Cousteau aussi, non seulement il a inventé le matériel et la pratique, mais il a inventé aussi les précautions que ça imposait si on ne voulait pas que les gens aient des suffocations à la remontée notamment. Il fallait marquer des paliers pour habituer les poumons au changement de pression extérieure. Donc il était connu au point qu'un jour on lui a dit « Est-ce que vous voudriez bien venir voir le roi, en audience ?» Et le roi parlait un français impeccable. Alors il était allé avec son bonnet rouge et dans la rue, il fallait écarter les gosses parce que.
Comment il prenait cette justement
il en avait l'habitude,
cette starification, on va dire.
Il s'en servait très bien parce que justement, il était tellement connu que les personnes les plus difficiles d'accès avait intérêt à être vu avec lui. Et alors il y avait des photographes qui prenaient en photo en arrivant au palais. Il y a un maître de cérémonie qui nous a dit, moi j'étais un peu crassouilleux comme ça, pas du tout officiel, et qui nous a dit qu'il fallait faire trois révérences parce que le roi c'est le roi. Et là Cousteau s'est lancé, parce qu'il était conscient de sa célébrité, mais conscient surtout du moyen, de ce que ça lui donnait comme moyen de pression. Alors on avait été la veille dans les rues de Bangkok, et on avait vu la prostitution enfantine, qui est assez épouvantable à voir, parce qu'il y a des gosses de garçons et de filles qui font vraiment le trottoir. Et Cousteau, qui est un redresseur de tort, s'est pas gêné, il a dit « Bon, Monseigneur, je ne sais pas comment on doit vous appeler, Majesté, je peux vous dire que le spectacle de Bangkok hier, ça nous a écœurés, c'est un fait. » Et le roi, dans une langue parfaite, c'est une chose qu'on n'a pas racontée. Et après, on m'a demandé de ne pas le redire,
oui.
Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté, finalement, publiquement. Alors le roi, dans un français impeccable, dit « Mais commandant, c'est vous qui créez le scandale, c'est vous les Européens, parce que les Allemands en particulier viennent par des charters entiers de pédophiles pour ce commerce-là et vont faire les trottoirs de Bangkok. Et les trottoirs de Bangkok, c'est né non pas de l'offre, mais de la demande. C'est-à-dire qu'il y avait un public, un marché pour ça. » Alors, le roi était un petit peu saisi parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui le traite comme ça.
On lui fait l'honneur de pouvoir rencontrer le roi, voilà. Et le roi a des remontrances.
Pire que ça, il lui dit, dites donc, Majesté, c'est dégueulasse ce qu'il y a à Bangkok, les pauvres gamins, vous n'avez pas honte, parce qu'il avait de son franc-parler, et il jouait de cette popularité qu'il avait pour engueuler les grands de ce monde. Et enfin, lui, les engueulait, parce que je ne sais pas si c'est une spécialité bordelaise, mais il avait son franc-parler. Voilà. Il avait son franc-parler, et c'est comme ça qu'il agissait beaucoup sur toutes les politiques des pays qu'il visitait, et notamment des politiques de protection de l'enfance, et protection des mers et des rivages, donc protection de la nature, mais étendue à la protection des êtres, lorsqu'il s'agissait justement de cette prostitution.
Le deuxième point qui vous a marqué, vous parliez donc de la Thaïlande, vous l'avez accompagné, ce premier point-là, donc l'audience du roi.
L'audience du roi. Et l'autre chose aussi, c'est ce que Cousteau m'a dit en sortant de là, il m'a dit, c'est triste à dire, mais c'est dans les pays politiquement les plus contestables que les politiques de l'eau, enfin en général, sont les plus sérieusement organisées. Et notamment, il y a un rivage qui est intact, c'est le rivage de Cuba. Il dit parce que, un, l'industrie est peu développée, et que, deux, quand j'ai rencontré Castro, je lui ai dit, dis donc, mais c'est infect, la pollution. Et il a dit, on va faire ce qu'il faut. Et dans les pays autoritaires, où il n'y a pas besoin d'en passer par des commissions, des voies parlementaires compliquées, il a dit, ok, c'est vous l'expert, on va faire ce qu'il faut. Et dans les semaines qui ont suivi, toutes les recommandations de Cousteau ont été suivies par le régime de Cuba. Dieu sait, c'était pas sa famille politique. Il faut bien dire que les pays autoritaires, sinon totalitaires, sont très polluants, mais s'ils prennent des mesures, elles sont suivies, alors que le marché, les pays de liberté économique et autres, on a beaucoup de mal à faire passer le message.
Alors, vous parliez de la Calypso, donc le vaisseau sur lequel vous êtes monté. Ce bateau, la Calypso, en 1950, c'est un mécène qui lui fait ce don au commandant Jacques-Yves Cousteau. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Pourquoi
c'était
ce mécène?
C'était moyennement un cadeau. C'était un mouilleur de mines, rescapé de la guerre de 40-45, et qui était très fatigué. On voyait le jour entre les bordées parce qu'il était en bois. Et quand on manie les mines pour les détecter ou pour les transporter, il y a intérêt à avoir le moins de métal possible. Et parce que tous les bateaux de guerre maintenant sont en métal. Mais là, c'était un bateau en bois. Donc ça se fatigue beaucoup plus dans des pays en plus à climat compliqué. Donc on voyait l'eau à travers les bordées, enfin, c'était un peu matériel très très fatigué.
Alors toute la famille Cousteau va utiliser ce bateau, va l'investir?
Oh non, c'est pas toute la famille. Sa première femme, dite la bergère, dont il a divorcé après, il a épousé Francine, qui venait moins à bord. Mais la bergère était souvent à bord parce que elle préférait la vie à bord. En plus, enfin, c'était très très connu qu'elle buvait beaucoup. Mm-hmm. Comme beaucoup de marins d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur un bateau, surtout si on ne plonge pas. Elle était vraiment passagère.
Alors en 1951, ils tentent les premiers essais au large de la Corse avec la Calypso.
Oui.
Et ils embarquent avec eux leurs enfants, Jean-Michel et Philippe, qui sont admis comme mousse. C'est pour ça que je vous disais, voilà, toute la famille embarque, investit le bateau.
Oui, c'est vrai.
Et puis en novembre 51, l'aventure commence. Et la Calypso, pareil, de l'arsenal de Toulon, direction la mer Rouge pour étudier les coraux. Parce que finalement, on ne connaissait pas.
Voilà. Alors, ce qui était très complet comme exercice de la part de Cousteau, c'était un exercice intellectuel, parce qu'on découvrait complètement la vie sous-marine, le moyen de se défendre des accidents possibles. On savait qu'il fallait marquer des paliers pour pas exploser les poumons.
Voilà, au niveau de la pression.
Les exposer ou les exploser, même. Et on a vite un peu la tête qui tourne. Enfin, c'était le souvenir que j'en garde, c'est qu'il ne faut pas perdre connaissance parce qu'on se laisse. Ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, ça existe. C'est surtout la circulation qui est perturbée par la pression. Et alors on a une espèce de vertige plutôt euphorique. Mais c'est une euphorie très dangereuse parce qu'on ne se bat plus pour remonter. On ne voit pas pourquoi on remonterait. D'ailleurs, moi j'étais surveillé de près par un des membres de l'équipe. Et puis j'aimais pas du tout les poissons énormes qui venaient rôder pour voir. Ils me faisaient des signes parce qu'ils ont des signes comme les sourds, les sourds-muets. Et pour dire, c'est pas un requin. Dans l'eau, ils paraissent plus grands qu'ils ne sont, mais enfin, ils avaient quand même au moins plus de 3 mètres de long. Quoi. Et rien que par curiosité, s'ils viennent taper dans le masque, ils peuvent vous le faire sauter. J'étais content de ressortir, c'est magnifique. Le spectacle est bouleversant, on le sait d'ailleurs parce que c'est un record mondial de projection. Les films de Cousteau, c'est une mine prodigieuse. Un peu répétitif, parce que le scénario, c'était toujours nous arrivons avec la Calypso. Alors, ils avaient un sondeur assez moderne qui donnait les indications de faune et de flore sous le bateau. Mais quand il fallait descendre à 80 mètres, moi, je suis descendu à une quinzaine de mètres. Et je commençais à regarder où il y avait de la lumière pour retrouver l'air libre.
On marque une courte pause, Bertrand oui. Poirot-Delpech. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission dédiée à Jacques-Yves Cousteau. À tout de suite.
Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie de Bertrand Poirot-Delpech de l'Académie française depuis 1986, journaliste, essayiste et romancier. Vous avez connu Bertrand Poirot-Delpech, Jacques-Yves Cousteau. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons pouvoir revenir en détail sur les trouvailles, les inventions de Jacques-Yves Cousteau, commandant Jacques-Yves Cousteau, qui, on le disait pendant cette pause, mêlait plusieurs sciences.
Oui, et c'était un formidable bricoleur aussi. Les premiers appareils, ça relève plutôt du concours Lépine, c'est-à-dire que c'était du bricolage. Et tout d'un coup, il a, avec quelques tuyaux, quelques bonbonnes, c'est-à-dire les progrès de l'air comprimé aussi, avec qui il était associé, vous savez pas, pour fabriquer les bonbonnes, c'est tout d'un coup le scaphandre autonome, ça ouvrait des horizons tels que, au fond, au milieu du 19e siècle, entre les monstres de l'Antiquité, enfin évoqués par Virgile ou Homère, mais jusqu'à Victor Hugo, qui imaginait des pieuvres monstrueuses dans le monde sous-marin, on ne savait rien de ce qui se passait à 10 mètres sous l'eau. Et ça nourrissait quantité de fantasmes et de frayeurs. Le monde sous-marin est ressenti à peu près comme l'espace interstellaire aujourd'hui. C'est-à-dire, il se passe des trucs très loin et qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas visiter. Là, tout d'un coup, on a fracturé la porte. Et c'est ça qui a fait le succès fasciné de l'invention de Cousteau, c'est que ça touchait à quantité de techniques, de pratiques aussi. Il fallait connaître la mer, mais presque en baigneur. Enfin, il fallait, et en même temps comme officier de marine. Et puis, il fallait avancer comme on a avancé dans la connaissance du monde aéronautique.
Alors, vous disiez à l'instant que c'était un bricoleur. Alors, effectivement, pour le boîtier concernant les caméras, le boîtier étanche, au tout début, il utilise des chambres à air pour pouvoir mettre sa caméra et plonger.
Oui. Oui, oui.
Ou des pots à confiture également pour pouvoir y mettre ses caméras.
Oui.
Ce qui, effectivement, fallait déjà y penser.
Ah, oui, mais
oser quand même plonger sa caméra qui, quand même à cette époque et encore maintenant, vaut quand même une certaine somme.
Oui, oui.
Et se décider à la mettre sous l'eau et partir avec.
Et surtout, le poids effectif change avec la profondeur. Alors, il fallait compenser, comme on compense aussi la respiration, pour résister aux pressions où il voulait descendre. Là, c'était en effet un bricoleur. Ça se sentait sur le bateau où il s'était approprié un bateau qui datait d'avant la guerre, donc qui avait déjà une cinquantaine d'années. Il s'était approprié comme un bricoleur mettrait des sandos pour tenir un appareil. Et voilà, c'était donc la Calypso, c'était la découverte d'abord d'un bateau qui lui appartenait. Qui lui ressemblait. Alors après, ça s'est commercialisé, ça s'est industrialisé.
Alors voilà, ça c'est un autre aspect. Donc, parmi les inventions, le scaphandre autonome, ces fameux boîtiers étanches pour les caméras, également les propulseurs sous-marins, la soucoupe plongeante. Et tout ça, ce sont des inventions qu'il va mettre au profit des autres plongeurs, puisqu'il...
Oui, c'est dérivé de ses premières intuitions et qu'il a tout de suite traduite. Ce qui était passionnant dans ses plongées avec lui, c'est que à la table, on bouffait ensemble. Il y avait donc tous les plongeurs qui étaient à égalité tout à fait. On oubliait les galons et à s'habiter des uns des autres. Et qui disaient, oui, mais alors là, j'ai remarqué que, alors comme c'était du temps du poste à galène, si vous voulez, pour la radio, ou de la découverte de l'aéronautique, c'est-à-dire, ah ben, on pourrait faire ça, alors on pourrait retailler les palmes de telle façon, compenser le poids de la caméra pour ne pas la tenir à bout de bras, qu'on puisse la guider, mais pas avoir à la soutenir. Chaque plongée apportait une nouvelle découverte.
C'est une double découverte, aussi bien pour le monde sous-marin que pour les instruments qui allaient permettre de découvrir ce monde sous-marin.
Et c'était le résultat d'une Il y a une technique qui a permis les choses, mais les découvertes et mises au point. Mais il fallait avoir la théorie d'un officier de marine confirmée, et donc d'un scientifique. Et puis les qualités humaines d'invention, la créativité, mais au ras des choses. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui rêvait de conquérir l'espace, mais en même temps, il était conscient d'être le premier, d'être pionnier dans cette affaire, notamment les applications militaires. Les Américains qui s'intéressaient beaucoup à ces découvertes, parce que ça permettait de placer des mines sans être vu, sans être repéré. Et donc, mais lui était très méfiant à l'égard des applications militaires. Il tenait beaucoup caractère civil et pacifique de son travail.
Est-ce que ça explique son indépendance ? Puisqu'il faut préciser que à chaque fois qu'il part en expédition, il refuse tout argent venant de quelconque gouvernement. Oui. Il ne veut pas de subvention.
Oui, et il travaille tout à fait à l'écart des pouvoirs locaux.
Alors qu'on pourrait penser que justement il part avec une partie de l'argent du gouvernement français, américain, c'est pas du tout le cas.
Et on pourrait croire qu'il démarche les gouvernants qu'il visite. Souvent c'est dans les pays pauvres, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les côtes d'Afrique ou en Asie, et il a assez peu travaillé en Europe. Mais il voulait pas dépendre de personne, si bien que la vente des films... Car il y avait un formidable cinéaste en lui. C'est lui qui appuyait sur le bouton, qui prenait les films. C'est lui qui faisait le montage. Il avait un studio de montage.
Alors je crois que c'est sous son appartement, en fait, il s'était installé un petit studio de montage.
Oui, mais qui permettait de faire le montage de bout en bout. Et il trouvait des musiques d'accompagnement. Et là, il faisait un travail vraiment d'homme de cinéma.
Avec quel argent il partait alors ? Avec une partie des films, mais au départ, il fallait quand même bien...
Il fallait amorcer la pompe, oui.
Amorcer
alors,
la pompe, oui.
Mais la Calypso n'avait pas coûté grand-chose. Elle bouffait beaucoup de diesel, de fuel, pour ça qu'il marchait au ralenti. Il marchait à 5-6 nœuds, alors qu'il aurait pu marcher à 8-10 nœuds. Mais parce qu'après...
Dans un souci d'économie.
Sinon, les bordées... Moi, je voyais ça de ma couchette. Le bateau était tellement âgé que, à certaines vitesses... Les bordées s'écartaient et l'eau entrait, à jet continu.
Ça, c'est alors, des éléments qu'on n'a pas forcément, ou en tout cas, on n'en a pas conscience.
Ah oui, le bateau était très fatigué. Il était déjà à la retraite hors service quand on lui a proposé. Et il dit, ça sera très bien, mais il y avait beaucoup de travaux. Mais à chaque fois, les chantiers lui faisaient dire à des rabais, et puis il mégotait. Hein.
Il était dans la négociation.
Oui, oui. La menace, le chantage même, on peut dire. Mais ça faisait partie de son personnage extrêmement, pas conscient du tout de sa valeur, mais de son pouvoir. Oui. Il savait qu'il pouvait changer la politique d'antipollution, de quantité de pays. Après, il vendait un film pour repartir en mission. Parce qu'il avait quand même à faire vivre un équipage de... Ils étaient au moins une dizaine de plongeurs et de marins fixes à bord.
Alors, justement, vous parlez des films. En 1956, sort Le Monde du Silence, qui recevra la Palme d'Or au Festival de Cannes. Oui. Alors, c'était une surprise, c'est une consécration. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là ?
C'est une rencontre formidable, une rencontre avec Louis Malle. Louis Malle, qui était passionné par l'aventure Cousteau, et le cinéaste qu'on connaît. Et ça l'intéressait beaucoup de donner une forme artistique à la découverte. Alors, il faut dire que voir des chutes de ce qui rapportait de ces missions, on avait envie de tout monter, parce que tout d'un coup, il y avait un gros plan d'un requin qui arrivait sur la caméra.
Il avalait la caméra même.
Et lui était sensationnel, mais il se doutait bien aux projections. Les gens étaient... Et Le Monde du Silence, moi j'étais à Cannes à ce moment-là, mais je ne connaissais pas lui, je l'ai connu après. Mais j'avais rencontré Louis Malle, qui était un ami, et ça a été un triomphe, parce que c'était une découverte totale. Imaginez qu'à Cannes, là, il y ait tout d'un coup quelqu'un qui ait envoyé un engin dans l'anneau de Saturne et avec une caméra et qui ramène des images complètement inédites. C'était de cet ordre-là. C'était assez comme ça, le dessous de la mer. C'était vraiment une révélation. On en était resté aux dimensions de l'aquarium, si vous voulez. Hein.
Oui. Finalement, c'est un documentaire.
Il a ouvert une dimension dans la connaissance de notre environnement. Il a ouvert, en quelques trimestres, une nouvelle dimension à la connaissance humaine.
C'est aussi l'occasion avec ce film de rencontrer le commandant Jacques-Yves Cousteau, mais aussi le reste de son équipe qui est constituée de personnalités bien différentes, hein, un scientifique, un archéologue, un océanographe. Il pioche
avait aussi,
comme ça.
Dans ses qualités très très différentes, il y a celle de mettre ensemble des compétences, des caractères. Et Saout, par exemple, qui a été longtemps le commandant de la Calypso, parce que souvent il n'était pas là. Il rejoignait la Calypso d'un port à l'autre, parce qu'il n'y avait qu'un jour de navigation, un peu dans l'océan Indien ou autre. Il les laissait trimballer le matériel. Mais il y a Sorano, qui est un des plus fidèles. Et il y avait en effet des compétences, parce que les gens s'intéressaient aux poissons, à la végétation, à la faune, la flore sous-marine. Tous ces gens-là se pressaient au portillon, parce que on leur ouvrait un
autre champ de connaissances
sur le monde qu'ils analysaient de loin et avec terreur. Et alors, il a aussi changé les mentalités. On vivait dans la crainte de pieuvres géantes.
Mais avec ces images, avec les images qu'il va diffuser, qui vont être diffusées partout dans le monde, il arrive à faire prendre conscience à la population de la beauté de ce monde qu'on est en train d'abîmer.
Il en a été aussi, oui, l'ambassadeur hein, dans beaucoup de pays. Et c'est là que ça rejoint ce que je vous disais, je ne sais pas si c'était avant que nous parlions au micro, mais il disait, ce n'est pas du tout mon choix politique, ma préférence politique, mais les pays autoritaires sont beaucoup plus sérieux dans la défense de la nature que les pays de marché où il faut faire du profit à tout prix.
Vous évoquiez Cuba et Fidel Castro avec ses plages qui, en quelques semaines...
Castro qui se mettait au garde-à-vous et qui disait, bien, commandant, qu'est-ce que je dois faire ? Il avait les moyens, étant à la tête d'un régime complètement autocratique, il avait les moyens de suivre à la lettre. Mais là aussi, il y a eu tout un travail de diplomatique. Il fallait obtenir les autorisations et après, il fallait faire passer le message. Et presque toujours, il passait par l'opinion publique, c'est-à-dire que c'est l'opinion publique qui faisait ensuite pression sur les gouvernants pour leur dire « Cousteau a dit que ». Parce que les gouvernants n'avaient pas très envie qu'ils leur fassent la leçon. Or, il était donneur de leçons à sa manière.
Alors, on va marquer une seconde courte pause, Bertrand Poirot-Delpech. On se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission en habit vert dédié à Jacques-Yves Cousteau. À tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Suite et fin de notre émission en habit vert en compagnie de Bertrand Poirot-Delpech de l'Académie française, journaliste, essayiste et romancier. Bertrand Poirot-Delpech, vous avez bien connu le commandant Jacques-Yves Cousteau. Quel était son caractère ? Est-ce qu'il était discret ou au contraire volubile ? Est-ce qu'il était têtu ? Est-ce qu'il était caractériel ? On va peut-être aborder maintenant le caractère de Jacques-Yves Cousteau. Comment vous le qualifieriez-vous ?
Têtu comme une mule, ça c'est sûr. Il aurait mérité d'être breton. Je ne sais pas si les Bordelais ont la même réputation qu'un peu plus au nord, mais il a le franc-parler et le verbe haut qu'on prête aux Bordelais. Bon,
et c'est ce qui fait son charme.
Son charme, mais très cassant. Disons, il pouvait dire, je vous dis, au roi de Thaïlande, c'est des conneries tout ça, enfin... Il parlait comme aux messes des officiers, à la table des officiers. Il ne s'embarrassait pas du tout de formalité et il jouait de cette popularité qui lui faisait court-circuiter tous les protocoles.
Les spectateurs qui, comme moi, ont pu voir les films de Jacques-Yves Cousteau, on a une image de quelqu'un quand même de très droit, est assez renfermé sur lui-même, qui garde tout, qui intériorise beaucoup de choses et qui donne un côté un peu distant.
Oui, moi j'ai eu l'expérience la plus heureuse possible, c'est que la vie à bord crée des liens. Sauf s'il a affaire à des gens qui n'ont pas le pied marin, qui dégueulent au bout de 2 heures. il l'évite, mais il savait que j'avais une pratique de la mer au ras de l'eau, puisque en voilier, on a vraiment les pieds dedans. Donc, moi, ce qui m'amusait quand on se déplaçait, c'était d'aller à la passerelle, voir comment fonctionnaient les appareils de bord, qui étaient assez succincts. Il y avait un GPS de cette génération, il y a quand même 20 ans de ça. C'était donc assez rustique. Et le bateau était... vibrait comme une vieille vedette. C'était fait à l'économie et il y avait le projet d'une nouvelle Calypso qu'il n'aura pas connue.
Oui.
Il avait des réflexes de son âge et de son grade. Enfin, c'est que...
Il dégage quand même quelque chose de très charismatique, de très imposant, de même d'impressionnant.
J'étais assez intimidé d'avoir à parler de lui sous la coupole. Et en même temps, ce qui m'a frappé, j'ai commencé le discours là-dessus, j'avais souvenir de lui... dans sa carapace de la combinaison de plongée, et un nuage de bulles, et je dis, l'idéal, ce serait qu'il soit arrivé dans la coupole par le haut, dans des bulles.
Son scaphandre.
Son scaphandre, et que nous ayons tous été comme ça, au milieu des plantes vertes.
Avec votre habit vert, vous auriez représenté...
L'habit vert, on pourrait penser à des algues.
Mm-hmm. Alors justement, vous évoquiez votre discours.
Oui.
Vers la fin de votre discours, je vais vous citer. Donc votre discours d'entrée, hein, je précise pour les éditeurs, le discours d'entrée de Jacques-Yves Cousteau. Vous écrivez « Lorsque l'heure de la retraite sonnera pour la Calypso, il se pourrait que vous la couliez exprès afin qu'elle aille rejoindre symboliquement au fond des mers vos premiers éblouissements et les dépouilles des compagnons engloutis. » Jacques-Yves Cousteau aurait pu
un
s'aborder
jour,
son bateau en
bouffant dans le carré. Je dis, mais elle ne va pas vivre éternellement. Elle va nous enterrer tous. D'ailleurs, il était déjà question d'en mettre un en chantier, mais ça coûtait beaucoup d'argent. Même s'il est vrai que l'entretien de la maintenance de la vieille Calypso était aussi...
C'est un gouffre financier. Mais en tout cas, il pensait s'aborder son bateau.
Et je dis, mais qu'est-ce que vous en ferez? Il ne va pas pourrir dans une anse de l'Audet ou de la rivière Bretonne. Mm-hmm. Il dit, il y aurait la solution de la couler. Et il est passé dans son regard, c'est pas un romancier que je raconte ça, mais il passait un tel chagrin préalable, tout d'un coup, dit, à l'idée de la voir sombrer. Et il dit, non, je dis ça, mais... C'est pas imaginable.
Ce qui donne encore une autre vision du personnage, Jacques-Yves Cousteau, qui, comme ça, dans un accès de fierté, pourrait s'aborder son bateau, et finalement, non, les sentiments reprennent le dessus. Et,
parce qu'il a l'impression, c'est comme on pique son chien, vous savez. Il avait des liens extrêmement charnels et affectifs. Et c'était un faux froid, c'est-à-dire un faux calme. Cette distance qu'il mettait avec les autres, notamment les gens qui ne comprenaient pas sa passion, ou qui la partageaient mal, ou qui disaient des bêtises. Mais il m'avait fait le plus beau compliment, il m'a dit, ça c'est quand on a décidé que ce serait moi qui ferais le discours d'accueil, il m'a dit, vu ce qu'on s'est raconté, j'ai confiance, au point que je voulais lui lire avant pour qu'il me dise s'il était d'accord.
Il voulait avoir son avis.
Et il m'a dit, non, c'est bon. Comme ça, je ne m'endormirai pas. Parce qu'il avait beaucoup d'humour, et il disait, ah non, comme ça j'aurai à le découvrir. C'est-à-dire que si je l'ai déjà entendu, je vais somnoler à la séance.
Et là, il avait ce côté un peu pince sans rire.
Ah, il était très plein d'humour, plein de drôlerie. Il était très, très heureux d'avoir un contact aussi large et aussi profond à la fois avec l'humanité entière. Parce que je ne connais pas de gens qui aient eu cette image dans le monde. Ces films étaient pré-vendus dans le monde entier. Il n'y avait qu'une chose, il en parlait d'ailleurs avec tristesse, c'est que c'est la bergère qui était toujours...
Sa première épouse.
Première épouse. Finalement, il a attendu, parce qu'il était très croyant, et il a attendu qu'elle ait disparu pour se
remarier
avec Francine, qui était alors autre, une jeunesse. Mais il plaisait beaucoup et il aimait plaire,
Un autre côté encore de Jacques-Yves Cousteau, c'est le côté séducteur.
Il était conscient de ça, oui, il était conscient de ça. Mais son pouvoir était lui-même, pas érogène, mais enfin, portait à la séduction. Oui. Mm-hmm.
pour terminer cette émission, on pourra quand même aborder l'académicien Jacques-Yves Cousteau, donc à l'Académie française, élu en 89 à l'Académie française. Ce qui peut paraître un peu déroutant, c'est que les membres, les académiciens à la française, sont écrivains, en tout cas écrivent beaucoup. Jacques-Yves Cousteau ne fait pas partie des grands écrivains. Il n'a pas écrit pléthore d'ouvrages. C'est quelqu'un de cinéma, comme vous le disiez si bien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui...
Il a fait plus de 100 films, je crois.
Oui, voilà. Mais être à la française, il n'a pas, mis à part l'encyclopédie qu'il a rédigée, il n'a pas écrit pléthore de livres.
Non. Mais ce n'est pas le critère unique. Hein. René Clair est entré quand même de cinéma.
Alors peut-être que vous pourriez nous éclairer sur les points favorables qui ont joué
en la faveur
de Jacques-Yves Cousteau.
Même ceux qui trouvent que ça devrait rester une rencontre d'écrivains, enfin de gens de livres, n'ont pas du tout fait d'objection, parce qu'il fait partie de ses confrères, il faisait partie de ses confrères, qui apportaient plus de gloire qu'il n'en recevait. Quand Cocteau a été élu, ou René Clair, c'est l'Académie qui en a profité, c'est pas l'inverse.
Alors, il est décédé en 97, Jacques-Yves Cousteau est décédé en 97. Quelle image, quel souvenir vous gardez, vous, de Jacques-Yves Cousteau?
Je ne sais pas, comme au moment où on en parle.
Jacques-Yves Cousteau est décédé en 97. Quel souvenir gardez-vous de votre confrère? Vous gardez l'image du marin? Est-ce que vous gardez l'image de l'académicien?
Écoutez, ce qui m'a frappé, c'est qu'il aurait pu faire ce que font beaucoup de confrères particulièrement illustres, c'est de négliger un peu l'académie et ses séances. Et lui est venu très ponctuellement, il s'arrangeait pour...
aux séances du jeudi?
Oui, pour se rendre libre. Et il était ravi. Il s'est fait faire un costume alors que les officiers pourraient être reçus dans leurs habits militaires.
Dans leurs habits militaires, oui.
Mais c'est pas le marin qui a été... C'est l'explorateur, au fond, qui a été admis.
Donc vous gardez cette image d'explorateur en souvenir plutôt que l'image, nous, populaire, qu'on peut avoir du marin au bonnet rouge.
Oui, moi, c'était devenu un ami. Enfin, il avait la gentillesse de me traiter tout à fait en ami. Et donc, c'est un peu différent. Mais dans l'ensemble, je pense que les confrères de l'époque, il y en avait qui étaient de pur littéraire et qui se demandaient un peu quelle tournure ça prenait. Mais l'histoire de l'Académie prouve qu'il n'y a pas eu que des littérateurs dans la maison.
Mais vous, votre souvenir, donc c'est le souvenir de l'explorateur que vous gardez en mémoire, l'ami explorateur.
Ah, moi, je trouve que c'est une conjugaison de qualités que j'apprécie particulièrement. C'est qu'il a inventé quelque chose, il l'a développé, toutes les conséquences possibles de ce qu'il avait inventé, parce que c'est vraiment une invention qui peut lui être attribuée en propre. De nos jours, ce sont des équipes qui gagnent en médecine ou en astronomie. On ne sait plus très bien à qui attribuer les succès, les réussites. Lui, c'est vraiment une invention personnelle, poussée vraiment par lui-même. Et du jour où il n'était plus... Quand il n'était plus à bord, on avait l'impression que ce bateau, c'était un genre de Clémenceau qu'on allait emmener à la casse, parce qu'il vibrait de partout et tout ça. Et lui, il lui rendait une âme, si ça veut dire quelque chose. Mais il était complètement familier, blagueur... enjouer la table à Calypso était un régal parce que l'anecdote était constante. Moi qui n'ai pas que perdu mon père à 10 ans, je me régalais d'avoir affaire à un père de cette qualité et de cette fraternité, je dirais, parce qu'il avait une vingtaine d'années plus que moi. Mais il était comme je trouve que c'est élégant d'être, c'est-à-dire qu'il avait rempli son destin au-delà de toute espérance. Il avait vraiment fabriqué quelque chose, fait quelque chose de sa vie.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous nous quittons. Bertrand Poirot-Delpech, merci de nous avoir accordé une heure pendant laquelle vous avez pu nous donner votre vision que vous aviez du commandant Jacques-Yves Cousteau, qui était à l'Académie française entre 1989 et 1997. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de la Fondation Cousteau au www.fondation-cousteau.org. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.